Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Politique avec au sommaire ce soir. Y aura-t-il une vague verte aux élections municipales? Boostée par leur succès aux européennes, les écolos espèrent l'emporter dans plusieurs grandes villes et confirmer leur leadership sur la gauche. Reportage à Bordeaux, l'ancien fief d'Alain Juppé, et à Rouen, une terre socialiste, deux villes que les Verts pourraient diriger au soir du second tour. La Chine face au défi du coronavirus, avec plus de 14 000 cas déclarés officiellement ce soir et plus de 300 morts, une urgence de portée internationale selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment Pékin gère la crise? Le coronavirus révèle-t-il au grand jour les faiblesses de la deuxième puissance mondiale? Reportage et interview. Au sommaire, également ce soir, un divorce après 47 ans d'un mariage tumultueux. Depuis vendredi soir à minuit, c'est officiellement terminé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Avec ce Brexit, l'Europe va maintenant devoir apprendre à vivre à 27 et plus à 28. Décryptage dans un instant. Et puis avec nous, à 20h, un comédien populaire qui change de registre. Thierry Lhermitte interprète le célèbre chasseur de nazis Simon Wiesenthal et tente de répondre à une question. Jusqu'où l'homme est-il capable de pardonner? Avec lui en plateau, 75 ans après la libération des camps, Evelyne Askolovitch, déportée en 1943 et qui sillonne aujourd'hui les collèges et lycées pour transmettre la mémoire de la Shoah aux jeunes générations. Nous sommes le dimanche 2 février 2020, c'est Politique, c'est parti. Et c'est parti en direct et en public jusqu'à 19h50 sur France 5 avec Camille Girard, Mariem Amelal et Thomas Snegaroff. Bonsoir à tous les trois. Maxime Darquier nous rejoindra évidemment tout à l'heure. Cette semaine, il est parti, Maxime, à la recherche des cahiers de doléances noircis par les Français au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Que sont-ils devenus? Le gouvernement va-t-il s'en inspirer? Réponse sur le terrain, ce sera autour de 20h30. Mais pour l'instant, j'accueille celui qui va nous accompagner ce soir, un intellectuel iconoclaste et provocateur. Et si on devait faire son portrait en pourcentage, il serait 30% Bojo, Boris Johnson, parce que le Premier ministre britannique a réalisé le rêve de notre invité, faire sortir son pays de l'Union européenne. Il sera aussi 30% Gilet jaune, parce que pour lui, c'est grâce à ce gilet, à ce mouvement social, que la France a retrouvé sa fierté l'année dernière. Enfin, il serait 40% Karl Marx, le théoricien de la lutte des classes, parce que notre invité s'en inspire dans son dernier essai, qui fait déjà beaucoup parler, la lutte des classes au XXIe siècle. Les luttes de classe. Bonsoir Emmanuel Todd.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté l'invitation de C'est Politique. Bon. Historien, démographe, anthropologue, entre autres, intellectuel, je disais, iconoclaste, provocateur, parfois dérangeant.
Provocateur, ça c'est ce qu'on dit.
Vous l'assumez aussi parfois.
Moi je me vis comme juste honnête. Ah. Ça produit cet effet, mais chacun sa vision des choses.
Vous aimez aussi piquer pour faire réagir?
Pas vraiment en fait.
Non.
Pas vraiment, mais je suis dans un camp qui, au niveau de, à l'intérieur de l'establishment, mais qui est très très minoritaire.
Ouais.
Et donc tout l'espace du commentaire journalistique, médiatique, intellectuel est occupé par des adversaires en fait. Donc c'est vrai que ça contraint à de la fantaisie dans l'expression.
Ah voilà, de la fantaisie pour ne pas dire de la provocation. Vous aimez un peu faire bande à part Emmanuel Todd dans le monde intellectuel et vous le prouvez une nouvelle fois avec ce livre qui remet en cause pas mal de certitudes, pas mal d'idées reçues aussi selon vous, et qui remet aussi notamment vos propres certitudes à vous en cause, Emmanuel Todd. Les luttes de classe au XXIe siècle, c'est au seuil, et écrit avec Baptiste Touvray, je le précise. On va en parler ce soir et vous allez aussi nous aider à décrypter l'actualité de la semaine. Camille, on est à 6 semaines maintenant du premier tour des municipales et les écolos sont dans les starting blocks.
Oui, et nous allons vous montrer ce soir comment ils comptent s'y prendre pour remporter à la fois des fiefs détenus par la droite, comme Bordeaux, et à la fois des terres détenues par la gauche, comme le bastion historique de Rouen.
Thomas, depuis un peu moins de 48 heures, quand on parle de l'Union européenne, on ne dit plus les 28, mais les 27.
Et ça vous fait plaisir, Emmanuel Todd. Une vraie rupture historique, hein, d'autant que depuis...
Rien ne lui fait plaisir, ce soir, regarde.
Si, si, ah, si, si. Non, non, ah, non, non, là, c'est très rare pour moi d'être dans le camp des vainqueurs.
Voilà, on va en parler.
Là, je suis dans le camp des vainqueurs.
Voilà, puisque depuis 1973, l'Europe n'avait cessé de s'élargir. À 73, c'était justement le Royaume-Uni qui entrait. On était passé de 6 à 28, ben, moins 1 à 27. Mais je vous expliquerai pourquoi, finalement, du point de vue de Londres, c'est une forme de retour à la normale que cette sortie des Britanniques. On va faire de l'histoire et remonter très 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 loin dans le temps. Je sais que vous aimez l'histoire, Emmanuel Todd. Le 25 octobre 1415, qu'est-ce qui se passe le 25 octobre 1415?
Non,
la bataille d'Azincourt.
C'est prêt, vous allez voir. Il a fait du Jean-Jacques Bourdin, en fait. C'est
non, ah, d'accord. Je vois l'esprit. J'ai le droit de répondre, quand même.
Non, non, on en parle tout à l'heure. Oui. Myriam, vous allez nous emmener au Proche-Orient ce soir avec le deal du siècle, selon Donald Trump, l'arnaque du siècle, selon les Palestiniens.
Oui, ils sont bien les seuls, les Palestiniens, à dénoncer l'arnaque du siècle. Peu de soutien dans le monde arabe. Je vais vous expliquer, Karim, comment la plupart des pays de la région font des pirouettes pour éviter de se mettre à dos leur opinion publique et en même temps de froisser leur allié américain.
Alors Emmanuel Thon, les luttes de classe au XXIe siècle, en France au XXIe siècle, décidément, nouvel essai déjà très commenté. On y retrouve vos convictions profondes à l'intérieur, ce que vos détracteurs appellent vos obsessions. Emmanuel Thon, une classe dirigeante déconnectée de la population, notre démocratie prisonnière de l'euro.
Alors, pour les déconnectés, c'est plutôt les obsessions de toute la population française. Et pour l'euro, on appelle ça une obsession, mais si c'est le bon diagnostic, vous voyez, si vous diagnostiquez une maladie terrible, et donc vous allez le répéter. Mais le livre n'est pas là-dessus. J'ai écrit des livres. J'ai écrit L'illusion économique en fait, qui prévoyait l'échec de l'euro.
Alors c'est magnifique parce que c'est ce que j'allais dire. j'allais dire qu'au-delà de ces convictions profondes qui sont les vôtres et qu'on connaît, ce Emmanuel Thon, plutôt classique pour nous, qu'on connaît, la thèse, l'originalité de la thèse est ailleurs. Pour vous, Emmanuel Thon, contrairement à ce que disent des économistes comme Thomas Piketty, par exemple, il n'y a pas en France une explosion des inégalités avec des gagnants et des perdants de la mondialisation. Il n'y a en réalité quasiment que des perdants, selon vous. 1% de gagnants, dites-vous, et 99% de perdants, et une France, selon vous, en voie de resous-développement. Vous proposez une nouvelle typologie des classes sociales, on va la voir brièvement, avec en haut de la pyramide, ce que vous appelez l'aristocratie stato-financière, les fameux 1% de gagnants. Juste en dessous, ce que vous appelez la petite bourgeoisie, CPIS, pour cadres et professions intellectuelles supérieures, 19% des Français, donc vous, nous, Emmanuel Thon, pour résumer.
Ceux que j'appelle les losers d'en haut.
Oui, on va en parler des losers. Vient ensuite la majorité atomisée. 50% de la population, c'est le cœur de votre réflexion. Et puis en bas, le prolétariat, qui représente 30% de la population. Je voulais poser ça avant de continuer. On va y revenir.
Si vous pouviez me filer la vidéo pour mes conférences.
Elle est assez jolie. On va y revenir dans le détail tout à l'heure. Mais d'abord, je disais, dans ce livre, vous y allez fort, vous ne faites pas de cadeaux à grand monde, et à commencer par vous-même. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous dites, moi aussi, je me suis parfois planté. En tout cas, certaines de mes analyses sont périmées.
Alors, d'abord, le livre repose sur un énorme travail statistique et surtout sur un retour aux données que je n'avais pas suivi, c'est-à-dire sur les années 1990 jusqu'à maintenant, jusqu'à l'écriture du livre. Je voulais voir ce qui s'était passé. Moi, j'étais dans d'autres recherches. En fait, au moment où je me suis mis sur le livre, je travaillais dur sur le néolithique européen. Oui. Et donc, je suis revenu aux données et avec l'idée de comprendre ce paradoxe d'un euro qui était une faillite économique, mais qui était en vérité de plus en plus accepté avec un effondrement, je dirais, de l'opposition à l'euro. Donc c'est un livre de vaincus. Mmh. Si vous êtes un chercheur, vous subissez une défaite politique, vous essayez d'en faire quelque chose. Donc pour comprendre ça, je suis retourné aux données et j'ai trouvé toutes sortes de données intéressantes. En particulier, j'ai vu que, ça c'est des données officielles, c'est-à-dire que à part les 1 ou même 0,1% supérieurs, comme vous le rappeliez, eh bien, il n'y a pas de croissance des inégalités, mais par contre, il y a une baisse du niveau de vie, et là, j'attaque assez durement l'INSEE. Et puis, au-delà de ça, il s'agit de comprendre, parmi les éléments que j'ai relevés, le livre n'est pas complètement pour soutenir une thèse. C'est-à-dire, c'est un livre qui cherche aussi à mettre à nu toutes sortes de faits que les gens ne soupçonnent pas. Il y a une sorte de plaisir de la découverte. Pour moi, par exemple, je sais pas. Bon, il y a sur l'éducation, j'ai admis ce qui était dur pour moi. Un type comme Finkielkraut est toujours ravi quand ça va mal. C'est une sorte de pessimiste structurel, pratiquement sans doute depuis sa naissance. Moi, je suis un optimiste de l'éducation. Mais là, j'ai dû constater quand même, sur la base d'une très belle étude de la DEP qui mesure les capacités en calcul des enfants à l'âge de 10 ans, en fait, une chute du niveau réel avec un élément d'espérance, car je suis un optimiste, et je veux dire à peu près équivalente pour toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire les enfants des losers d'en haut, les cadres, ont une chute de niveau éducatif. Et puis,
allez-y.
Et donc là, c'était simplement un truc très étonnant, ça a été dans une phase de baisse du niveau de vie, puisque ça, la baisse du niveau de vie est une chose avérée, malgré les indicateurs de prix un peu falsifiés de l'INSEE. En fait, ce qu'on a vécu dans la période la plus récente, si vous regardez la télévision, vous avez l'impression que toutes sortes de gens se suicident en sautant par les fenêtres. Les policiers, c'est exact, un peu plus pour les policiers. Les gens des télécoms, c'est peut-être vrai, mais globalement, le taux de suicide, en fait, s'est effondré dans une phase de baisse du niveau de vie. Et tout ça renvoie à ce que j'ai fait. C'est la partie du livre qui était le moins commentée jusqu'à présent. Une tentative d'analyse psychosociale des attitudes, de la façon dont l'individualisme aboutit à une chute des individualités, d'une certaine manière. Mais c'est vraiment un livre de recherche.
Et c'est un livre qui remet en cause des thèses qui sont très populaires en ce moment, et notamment une thèse dont on parle beaucoup, qui est la thèse de l'archipel français, Thomas.
Oui, le livre de Jérôme Fourquet, reçu ici même l'an dernier, que vous citez d'ailleurs beaucoup, notamment sur...
Il faut dire les choses clairement. C'est vrai que je dis un peu le contraire de ce que dit Fourquet, voilà. mais c'est un copain. Non, mais c'est pas ça. Mais avant, dans une période antérieure, on a travaillé ensemble sur des données. Donc, c'est deux thèses qui découlent un peu d'un travail commun.
Justement, ces thèses, quelles sont-elles? Alors, donc, Jérôme Fourquet, donc, vous le citez à plusieurs reprises, en effet, dans votre livre.
Plus que Marx.
C'est vrai, plus que Marx, notamment sur les prénoms. Lui postule que la France, elle s'est fragmentée à l'extrême, l'archipel, l'unité précédemment historiquement fournie par le catholicisme a volé en éclats. Cet individualisme ne s'embarrasse plus du clivage gauche-droite, auparavant structurant, et c'est ça qui explique, selon Fourquet, Emmanuel Macron. C'est aussi le cœur d'autres livres. Pourquoi Emmanuel Macron? Il y a un autre livre, un peu plus ancien, mais lui aussi très lu et commenté, c'était La France périphérique, que vous ne citez pas dans votre livre, de Christophe Guillouis, qui dépeint non pas une multitude de France. Non pas une multitude de France, mais globalement deux, celle des villes-centres, des centres-villes, bien intégrées dans la mondialisation, les winners, pas les losers, et celle délaissée des périphéries, délaissée de la mondialisation, donc les losers. Pour vous, aucune de ces deux visions ne correspond vraiment à la réalité de la société française. Vous dépeignez au contraire une vraie unité. Si on enlève le 1%, voire le 0,1%, mais même le 1% des dominants, il reste 99%, alors là c'est un peu inquiétant, 99% de la population appauvrie, dominée, dont les systèmes familiaux convergent. Là c'est Emmanuel Todd qui fait un travail sur son propre travail. Une société résignée à ce point qu'elle ne se suicide plus, c'est ce que vous venez de nous raconter, mais dans laquelle certains se croient à tort dominant, oui. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cet essai, c'est votre appel à la psychologie sociale pour expliquer ce, et c'est ce qui se distingue le plus, à mon avis, votre travail de ceux qu'on vient de citer, de Guillouis ou de Fourquet.
Vous voyez, oui. on allait le dire, ce que vous avez dit.
Oui, c'est parfait. Si j'ai moins de boulot à faire, je suis tout à fait ravi.
Non, mais on a...
Le livre est, vous avez raison, en fait, le thème fondamental du livre, c'est la fausse conscience. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'analyse des faits objectifs qui ne sont pas ceux qui sont, dans les connaissances communes, pour moi, pour la critique, par exemple, pour la baisse du niveau de vie, je renvoie aussi à l'évolution de la mortalité infantile, de la fécondité dans les diverses catégories de richesse. Mais ces indicateurs objectifs, une fois qu'on constate qu'ils sont en contradiction avec ce que les gens pensent, on est ramené à cette hypothèse d'une fausse conscience, c'est-à-dire de gens qui ne savent pas quel est leur destin.
Ça veut dire qu'on se ment à nous-mêmes, nous tous.
C'est pas qu'on se ment, c'est qu'on ne sait pas. C'est extrêmement difficile, quand on est quelque part dans la structure sociale, d'avoir une vision objective de la structure sociale. En fait, c'est dans les fondements du marxisme. Et ça a été repris, intelligente du marxisme.
Pour essayer d'expliquer les choses, et peut-être que je vais me tromper, mais c'est-à-dire que, par exemple, des gens ont voté pour Emmanuel Macron contre leur propre intérêt. C'est ça la fausse conscience.
Oui, je veux dire, des anglo-saxons diraient des dindes qui ont voté pour Noël, quoi. Vous voyez, et donc...
dindes qui votent pour Noël.
Voilà, c'est ça. Je donne un cas typique, parce que c'est un peu mon milieu de référence du point de vue familial, le cas des enseignants. Ouais. Je donne les chiffres, étude de Fourquet, les chiffres sur le vote
des
enseignants.
Notamment.
Comment ?
Les agrégés, vous dites, c'est là.
Et les agrégés ont voté à 50% pour Emmanuel Macron, qui a été présenté comme une émanation du grand capital international ou je ne sais quoi. Et immédiatement après, regardez, on est au stade suivant, on est après l'écriture du livre. Dans le livre, il y a l'analyse du mouvement des Gilets jaunes, des gens tout en bas, qui, eux, ne se faisaient aucune illusion sur leur destin sous la présidence Macron. Mais on voit les professeurs qui, avec la réforme des retraites, j'arrive plus à dire universelle, je parle de Gleichschaltung, mise au pas, concept allemand ancien. Je me demande si, comme on ne sait pas ce que vont être ces retraites, qu'on va supprimer un système sans que l'INSEE travaille pour vraiment faire des projections permettant d'en défier un autre.
En clair,
peut-être qu'on est en train de supprimer les retraites.
En clair,
je ne sais pas.
En clair, les profs.
Et donc, et les
vous
profs
se rendent compte aujourd'hui.
Et les profs viennent se rendre compte que ce président qu'ils ont élu se retourne violemment contre eux. Donc, on est dans une illustration assez spectaculaire du caractère opérationnel de la notion de fausse conscience.
On va continuer à parler de tout ça ce soir, à parler aussi de l'une de vos thèses très, très dérangeantes. C'est aussi que Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour vous, sont les deux faces d'une même pièce. Emmanuel Todd, ce que vous avez appelé le macro-lepénisme en ce moment, qui fait évidemment hurler l'entourage du président de la République. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la semaine Paul, et elle est signée Félix Huffer-Lopez et Étienne Mélou.
Cette semaine, notre invité vient nous parler de son livre « La lutte des classes en France au XXIe siècle ».
Mais ça n'est pas mon sujet.
Bon, d'accord.
L'occasion pour la semaine Paul de revisiter le titre de son livre à travers l'actualité. C'est parti. Lundi, ce serait la lutte de Cédric Villani en Macronie au XXIe siècle. Le bras de fer continue.
Ça gronde à La République en marche.
Cédric Villani convoqué par Emmanuel Macron qui lui a demandé de se rapprocher de Benjamin Griveaux pour les élections municipales à Paris.
Sauf qu'à la sortie de l'Élysée...
Je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement.
Un coup dur pour Benjamin Griveaux, distancé dans les sondages.
Je l'appellerai cet après-midi, Cédric, pour lui dire que s'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte comme elle l'a toujours été depuis le premier jour.
Une décision synonyme de remise en question de l'autorité du président qui ne passe pas auprès du patron du parti présidentiel.
Je crois que les propos sont clairs. Et donc moi je demanderai mercredi soir à mon bureau exécutif d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de La République En Marche.
En Macronie, mieux vaut marcher en rang. Mardi, ce serait la lutte d'une élue En Marche contre les violences au XXIe siècle. Émotion dans l'hémicycle.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues et mes très chers parents à qui j'ai menti hier au soir à leur question « Tout va bien ma fille ?» car au même moment, ils me faisaient part de leur inquiétude quant au climat social de notre pays.
La voix tremblante, une députée LREM se livre sur l'agression qu'elle a subie quelques jours plus tôt.
Je ne pouvais pas leur dire que samedi matin, comme en ce mois de janvier, j'assistais à des vœux dans l'une des communes de ma circonscription, en Seine-et-Marne. C'est au cours de ces vœux qu'un citoyen m'a agressé verbalement et m'a menacé.
Avant de s'en prendre à l'opposition, trop silencieuse selon elle sur ce sujet.
Combien de collègues doivent encore être victimes de ces faits ? Faut-il qu'entre d'entre nous restent à terre avant que certains membres de l'opposition sur ces bancs sortent de leur mutisme ?
Mardi, ce serait la lutte des casques au XXIe siècle. Ce sont les images chocs de la semaine. À Paris, les pompiers font face au CRS pour dénoncer leurs conditions de travail.
Nous, ce qu'on veut, c'est reconnaître le risque de notre métier. Le risque de notre métier, c'est dans la prime de feu, c'est comme notre prime de risque, et dans le maintien de nos conditions de départ en retraite.
Très vite, la tension monte. Des heurts éclatent. Avec une scène d'une rare violence. Une mêlée opposant CRS et pompiers. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a annoncé revaloriser leurs primes de feu, signant ainsi la fin de 9 mois de grève. Mardi, ce serait la lutte pour le deal Made in Trump du XXIe siècle. Trump joue les négociateurs.
It's been a long and very arduous process to arrive at this moment.
À la Maison-Blanche, le président américain présente son plan de paix pour le Proche-Orient, censé redéfinir les frontières entre Israël et les territoires palestiniens de Cisjordanie.
But I was not elected to do small things.
Un plan qui prévoit la légalisation des colonies israéliennes en territoire palestinien. Au total, l'État d'Israël prendrait ainsi le contrôle de 30% de la Cisjordanie. En échange, les États-Unis s'engagent à reconnaître un État palestinien.
My vision presents a win-win opportunity for both sides.
Léger problème, l'autorité palestinienne, absente des négociations, a rejeté ce deal. Mercredi, c'est le début de la fin de la lutte pour le Brexit au XXIe siècle.
Je sais pas,
après plus de 3 ans de débats sur le Brexit, c'est l'heure des adieux pour les députés britanniques au Parlement européen. Un moment historique vécu différemment selon les parlementaires. Du côté des pro-Brexit, l'adieu se fait dans la joie.
I know you're gonna miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future to working with you.
Quitte à en énerver certains.
Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving and take them with you.
tandis que du côté des anti-Brexit, les adieux se font dans les larmes.
I hold in my heart the knowledge that one day I will be back in this chamber celebrating our return to the heart of Europe. Thank you.
Preuve que le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Enfin, jeudi, ce serait la lutte sans fin de François Fillon pour l'honneur de sa femme au XXIe siècle. Disparu des radars depuis le 23 avril 2017, François Fillon est de retour et pose les bases.
Donc je le dis tout de suite, dès le début de notre émission, je ne chercherai pas à revenir.
Non, si Fillon est là, c'est pour, entre autres, laver l'honneur de son épouse concernant les soupçons d'emploi fictif.
Pénélope a été ma première et ma plus importante collaboratrice.
En cause, une vidéo où Pénélope Fillon, d'origine britannique, déclarait ne pas être l'assistante parlementaire de son mari. Attention, excuse surprenante.
Le mot d'assistant parlementaire en anglais a une autre signification qu'en français.
Ok, et d'ailleurs pour Fillon, son épouse a simplement fait preuve d'humilité.
Elle est d'une très grande timidité, d'une très grande réserve, elle a toujours fui les honneurs.
La suite du feuilleton lors de son procès dans 3 semaines.
Semaine Paul réalisée avec l'aide de Guillaume Vicente et de Lucie Lehmann et regardée par notre invité, l'historien et démographe Emmanuel Todd. L'une des actus importantes de la semaine à l'étranger, on l'a vu dans la Semaine Paul, c'est donc ce plan présenté par Donald Trump comme un plan de paix pour résoudre le conflit israélo-palestinien, mais qui ressemble davantage à un cadeau fait à l'extrême droite israélienne et à la droite nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors la philosophie de ce que Trump appelle le deal du siècle peut être résumée en une formule, de la terre contre de l'argent, et concrètement, comme on va le voir sur cette carte qui montre la différence entre ce que proposait l'ONU en 67 et ce qui est demandé aujourd'hui par Donald Trump, le président propose de légaliser les colonies israéliennes implantées illégalement et d'annexer environ 30% des terres palestiniennes et de faire également de Jérusalem la capitale indivisible de l'État d'Israël. En contrepartie, les Palestiniens recevraient sous condition la somme de 50 milliards de dollars. Myriam, c'est un plan clairement déséquilibré, mais qui a été énoncé dans l'indifférence quasi générale et y compris dans le monde arabe.
Alors il y a eu, Karim, une réaction hier, celle de la Ligue arabe, une réaction pour la forme, pour sauver la face, avec une phrase à retenir: nous rejetons le plan. Les mots sont importants en diplomatie, on emploie le mot rejeter et non pas condamner, rejeter pour rassurer la rue arabe, mais ne pas condamner pour ne pas froisser l'allié américain. Il y a une autre raison de cette indifférence, Karim, qui est parfaitement résumée dans ce dessin que j'ai trouvé dans le quotidien Sharq al-Awsat, le grand quotidien pan-arabe. Autour de la table des négociations, le médiateur américain, un Israélien, et face à l'Israélien, le portrait de Yasser Arafat décédé il y a 16 ans, sous-entendu, il n'y a plus personne en face. Autrement dit, c'est de la faute des Palestiniens, cette situation. Ils ont été incapables de s'unir et de se trouver un vrai leader. C'est l'argument de beaucoup de pays, l'Égypte, la Jordanie, mais aussi l'Arabie Saoudite. Il y a tout de même un pays, une puissance régionale qui se pose en défenseur des Palestiniens, c'est la Turquie. Recep Tayyip Erdogan, lui, a employé le mot condamné, et il a d'ailleurs qualifié ce plan de plan d'annexion. On retrouve l'opinion d'Ankara dans le journal Yeni Shafak, un journal pro-Erdogan, avec ce titre: nous protégerons Jérusalem. Or, protéger Jérusalem, jusqu'ici, c'était le rôle de l'Arabie Saoudite, garant des lieux saints de l'islam. Maintenant, Recep Tayyip Erdogan accuse les Arabes de trahison et en même temps, il se pose en défenseur du monde arabe.
Emmanuel Todd, un mot du rôle des Américains, vous qui avez observé de très près le système américain dans votre livre Après l'Empire.
Là, je crois qu'on lit les données, tout ça est exact, mais on lit les données un peu à l'envers. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est que les Américains sont en train de perdre le contrôle de la situation. C'est-à-dire qu'ils ont deux alliés, en fait, maintenant, Israël et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, où la population en termes de mentalité évolue très rapidement, ça peut suivre par les coupes de fécondité, à mon avis, est au bord de l'explosion. Et c'est eux qui sont demandeurs vis-à-vis des Israéliens, qui vont être bientôt leur seul allié dans la région. Les puissances montantes, c'est la Turquie et l'Iran, qui sont effectivement posés de l'autre côté. Et les États arabes sunnites ne disent rien, mais effectivement, parce qu'eux-mêmes sont tous menacés des intégrations. Vous voyez ? Donc c'est...
Pour vous, le déclin de l'Empire américain dans la région, il se fait au profit de qui ? Au profit des Russes, par exemple ?
C'est-à-dire, les Russes ne peuvent pas prendre la place. Les Russes se sont positionnés à l'échelle mondiale, et spécifiquement là-bas, en organisateurs de la multipolarité. C'est-à-dire qu'ils ont des bons rapports avec les Turcs, ils ont d'excellents rapports avec les Iraniens. Bon, la Syrie, n'en parlons pas, mais ce qu'on ignore ou ce qu'on oublie le plus souvent, c'est qu'ils ont de très bons rapports avec Israël aussi, puisqu'il y a 800 000 Israéliens qui en fait sont d'origine russe et très attachés à la Russie. Et donc, moi je dirais que ce plan de paix, je dirais, de Trump, que c'est, il est un peu long, mais c'est son plus mauvais tweet. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ridicule. Je veux dire, on ne peut pas appeler ça un plan. Je veux dire, l'injustice exposée d'une façon aussi crue, c'est ridicule. Mais ça ne peut se comprendre que, en fait, ce n'est pas un cadeau que les Américains font aux Israéliens, c'est les Américains qui supplient les Israéliens de ne pas les abandonner.
Alors Emmanuel Todd, j'ai envie de m'adresser maintenant pendant quelques minutes à votre part britannique. Vous qui avez du sang britannique dans les veines, on est d'accord.
Non, je suis très content de la victoire du 15 de France.
Ah, cet après-midi.
Je voudrais que les choses soient claires.
Voilà, victoire 24-14, 24-16.
Oh, putain, pardon, excusez-moi.
Il est que dans le camp des vainqueurs, Emmanuel Todd.
Ouais, ce soir, il est dans le camp des vainqueurs.
C'est ma soirée.
24-17 pour l'équipe, pour le 15 de France, bravo. Vous qui avez aussi étudié longtemps à l'université de Cambridge, vendredi soir, minuit, le Royaume-Uni sort officiellement de l'Union européenne. Voilà, Big Ben projeté sur la façade du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique. Emmanuel Todd, en préparant l'émission, vous nous avez dit que le jour du Brexit, le 23 juin 2016, vous avez failli vous évanouir de bonheur.
Oui, je n'avais pas voulu regarder les stats, j'ai regardé le matin et j'avais très peur. C'est-à-dire que la stabilité de l'Angleterre est nécessaire à mon équilibre mental. Vous voyez, et si le Brexit n'était pas passé, ça voudrait dire que les Anglais n'étaient plus Anglais. Donc j'ai eu très peur aussi pendant 3 ans, parce que l'Angleterre était extrêmement divisée. Et puis ils ont redonné le pouvoir à des conservateurs, des élites responsables, respectant le peuple, avec un peuple qui respecte ses élites. Et donc là, on sait que l'Angleterre est elle-même. Mais il y a une chose quand même que je voudrais dire sur la situation, parce que ce qu'on a entendu et ce qu'on va entendre beaucoup, c'est que bon, bah, c'est les Anglais, ils n'ont jamais voulu être dans l'Europe.
On va en parler.
Ils roulent à gauche, des trucs comme ça, ils ont des bus à 2 étages, c'est une bizarrerie, ils n'étaient pas dans le coup. Mais pour moi, ce n'est pas ça, et pour les Brexiteurs non plus. L'Angleterre, c'est le lieu de naissance de la démocratie libérale. C'est le cœur en Europe de la liberté. Et en fait, si vous percevez comme moi l'Europe comme une immense machine bureaucratique oppressant les peuples et de plus en plus sous souveraineté allemande, qui va s'aggraver d'ailleurs avec le départ des Anglais, ça va être un problème pour nous Français, vous dites que bon, si vous êtes un peu, si vous voulez ne pas trop vous exciter, vous dites c'est Dunkerque. C'est-à-dire qu'ils s'en vont, mais ils vont revenir. Mais ça veut dire qu'il existe toujours une puissance démocratique libérale en Europe, qui depuis sera puissamment soutenue par les États-Unis. Trump a fait savoir, Pompeo a fait savoir très clairement qu'ils approuvaient le Brexit, et ça va devenir ce que l'Angleterre a été chaque fois qu'il y a eu une menace de dictature continentale ou de totalisme continental, un point d'appui pour la liberté, vous voyez. Et donc les Anglais sont des Européens, mais en un sens,
on poursuit votre réflexion avec Thomas, parce que je sens que vous allez dire sinon la chronique de Thomas, et ça
c'est
pas possible.
Bah justement non, parce que vous avez une approche plutôt politique. La mienne va être davantage géopolitique, parce que effectivement, il y a une nouveauté très claire, mais il y a aussi un retour à la normale dans ce qui est en train de se jouer. Mais votre approche est un peu différente de la mienne, et je vais vous expliquer pourquoi. On va revenir ensemble à Azincourt. Alors c'est pas un match de rugby de cet après-midi. Regardez l'image. On est le 25 octobre 1415. Les Anglais d'un côté, c'est l'une des plus grandes batailles de la guerre de 100 ans, une grande victoire anglaise sur la chevalerie française qui vit d'ailleurs ses dernières heures à ce moment-là, mais surtout, c'est la fin d'une époque, car à partir de ce moment-là, les Anglais vont avoir comme priorité géopolitique, pas politique, de ne pas se faire envahir. On peut comprendre, hein, quand on est une île avec une identité particulière, et cette priorité va impacter la politique européenne envers le continent de la part des Britanniques, et qu'on peut résumer ainsi, hein, tout faire pour éviter l'émergence d'une puissance hégémonique en Europe, qui pourrait potentiellement les envahir, et donc privilégier plutôt un équilibre. Et un équilibre, c'est plutôt quand vous avez deux puissances qui s'équilibrent, en l'occurrence, historiquement, la France et l'Allemagne. Ça, c'est la situation idéale. Et de fait, les Britanniques n'ont remis les pieds sur le continent que lorsqu'une puissance hégémonique, vous évoquiez Dunkerque, menaçait la stabilité du continent, et donc potentiellement les îles britanniques dans leur intégrité, dans leur souveraineté. Un mot que vous aimez beaucoup, donc ça peut être Hitler, mais précédemment, ça peut être Napoléon.
Oui. Une autre dictature, voilà. Moins sévère, je l'admets.
Mais c'est pratiquement la question de la dictature.
Ça n'est pas que géopolitique.
Alors attendez, laissez-moi terminer. Donc Napoléon, qualifions-le comme on veut, mais même aussi Louis XIV un peu plus tôt, aucune menace de cette nature en 1973, quand le Royaume-Uni entrait dans la CE, mais simplement la recherche d'un intérêt géopolitique pour les Américains, économique pour les Anglais qui allaient très mal économiquement à l'époque, en se repliant sur leur île. Ce que je pense, mais peut-être pas vous, c'est que les Britanniques referment donc un petit demi-siècle qui ne correspondait pas à plus de 500 ans d'une tradition de splendide, mais très attentif, isolement.
Alors, je voudrais faire une remarque sur votre image qui présente des archers face à face, qui est peu réaliste, puisque Azincourt, c'était les archers anglais dégommant la chevalerie française.
C'est pour ça que j'ai parlé des chevaliers.
Donc l'image est inexacte. Quand bon, même. Ça, je suis historien quand même de métier.
Non, bien.
Bon. Et d'autre part, ce que ça évoque aussi, parce que là, on repart dans le modèle d'une Angleterre qui serait fondamentalement autre chose que nous. Mais si vous êtes médiéviste, et ainsi que l'avait bien vu Marc Bloch, les nations anglaises et françaises, qui sont les deux premières nations constituées, les deux premiers États nationaux constitués du continent, sont nés, je dirais, en collaboration et compétition. Sur ces batailles, la guerre de 100 ans, et il y a la vérité, c'est que notre sœur en histoire, je sais qu'on est censé être amoureux de l'Allemagne ces jours-ci, qui nous a fait tellement de bien dans l'histoire. Moi, ce que je dis, c'est qu'avec un allié comme l'Allemagne, on n'a plus besoin d'ennemis, vous voyez, c'est une vieille formule qu'on applique en général. Et que notre sœur en histoire, pour l'historien de la longue durée, c'est l'Angleterre. Et se séparer de l'Angleterre, c'est pas bien pour la France. Et l'Angleterre, encore une fois, ça n'est pas... C'est le splendide isolement, mais le splendide isolement, c'est la préservation de la démocratie nationale.
Alors, est-ce que la France devrait faire la même chose selon vous? Est-ce qu'un Frexit...
Alors, les choses se passent...
C'est nécessaire.
J'ai dit que j'avais écrit un livre de vaincu, donc je reste dans la posture du vaincu. Je veux dire, les choses sont très, très compliquées pour la France, parce que l'Angleterre, finalement, n'avait comme problème que de retrouver son unité. Elle était quand même très divisée. Les partisans du Remain dans les universités étaient d'une férocité presque comparable à celle des macronistes. La lecture du Guardian était devenue, je dirais, vraiment pénible. Mais ils avaient la livre sterling, ils avaient la langue du monde, ils avaient leur lien avec ce qu'on appelle l'anglosphère. L'anglosphère, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, etc. C'est plus d'habitants que l'Europe sans l'Angleterre. C'est déjà plus important
donc,
que nous. Nous,
donc, n'étant pas dans la
nous
situation...
on a perdu notre industrie. On a perdu notre souveraineté monétaire. On est sous emprise allemande. On n'a pas. Et je pense, je le dis à la fin du livre, et c'est ce qui devrait me troubler énormément mes amis de la gauche radicale, etc., qui se vautrent dans un anti-américanisme hors de propos. La seule possibilité pour les Français de s'extraire de cette gang dans laquelle ils sont, c'est d'avoir l'appui des Américains, dont c'est l'intérêt. Je ne dis pas qu'il faut aimer les Américains. Je dis que seule la Fed, les autorités monétaires américaines, pourraient permettre à la France de s'extraire de l'euro.
Camiquet pour le Frexit aujourd'hui
Alors,
en
on
France,
va.
Qui sont les Frexiteurs?
Oui, on va le voir tout de suite en image, car ces Frexiteurs, eh bien, ils se sont réunis vendredi soir pour fêter ensemble Brexit. C'était dans une petite salle à Paris, décompte sous le drapeau de l'Union Jack.
5, 4, 3, 2.
Alors, parmi eux, on le voit rapidement hein, sur ces images, il y avait Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, il est plus souverainiste que frexiteur. Hein. Lui, il veut renégocier les traités. Il y avait aussi Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, pro-frexit. Et puis François Asselineau, c'est lui qui avait organisé la soirée. François Asselineau, c'est le candidat à la présidentielle en 2017 qui a le plus porté cette idée. On le voyait même sur ses affiches de campagne, le candidat du frexit. Alors, la personne qu'on ne voit pas lors de cette soirée, c'est Marine Le Pen. Pourtant, en 2016, hein, lors du vote en Grande-Bretagne, elle voulait libérer la France de la tutelle européenne. On le voit sur ses affiches et maintenant la France. Mais désormais, c'est un tabou au Rassemblement national. On est convaincu que le Frexit fait peur et donc n'est pas utile électoralement. C'est en tout cas un des enseignements tirés par Marine Le Pen suite à sa défaite à la présidentielle en 2017. Vous, Emmanuel Todd, vous venez nous expliquer hein, que dans votre livre, vous dites que c'est un livre de vaincus et qu'en effet, le camp des Frexiteurs n'est pas très fort en France. Mais est-ce que vous dites, si jamais le Brexit se passe bien, est-ce que le camp des Frexiteurs pourrait être renforcé?
Mais c'est-à-dire que ce qui va se passer n'est pas du tout ce qu'on nous annonce. C'est-à-dire que les Anglais, on a passé 3 ans à se réjouir du fait que le Royaume-Uni était divisé et de ce que l'Europe était unie. Les Anglais, qui sont toujours un peu lents à se mettre en train hein, dans les conflits, ensuite, quand ils y vont, hein. Faites attention. Ils ont retrouvé leur unité. Et chaque conflit avec l'Europe continentale va accentuer cette unité et va accentuer l'intérêt des États-Unis à soutenir les Anglais. Mais maintenant, c'est maintenant, dans les négociations commerciales qui vont venir dans l'année, que les Européens vont pouvoir mesurer leur division. Parce que tous les pays n'ont pas autant à perdre d'une négociation ratée avec l'Angleterre. Alors nous, en France, on va être dans une situation très particulière parce qu'on est l'un des pays qui a le plus à perdre. Il y a une énorme communauté française, d'énormes intérêts français en Angleterre. C'est l'un des rares pays développés avec lequel on a un excédent commercial. Et donc, les premiers punis, avant même les Allemands, qui sont un peu embêtés pour leurs exportations de voitures, ça sera les Français. Et on a, ayant déjà été qualifié d'obsédé de l'euro, je ne voudrais pas être qualifié d'obsédé du président Macron, mais on a un président qui, sur l'Angleterre, raconte n'importe quoi sur un ton d'une agressivité non politique, non diplomatique et surtout dangereuse pour les Français.
– Je reviens à votre livre, Emmanuel Todd, on a parlé déjà un peu de la thèse de ce livre tout à l'heure, « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». Comme Thomas Piketty avant vous, avec Le Capital, il avait écrit, lui, « Le Capital au XXIe siècle », et vous vous inscrivez dans les pas de Karl Marx, en tout cas pour le titre.
Mon titre est une sorte de double pastiche de Karl Marx et de Piketty.
– Donc, « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », pourquoi Marx était la bonne porte d'entrée ?–
Il y a des choses, alors Marx, c'est le Marx des luttes de classe en France et du coup d'État de Louis Bonaparte, c'est le Marx historien de la France. Et pour moi, Marx, paradoxalement, n'est utile que pour l'étude de la France. Les luttes de classe, c'est un truc français. Marx a généralisé à la planète, mais je ne parlerai pas de lutte des classes pour l'Angleterre, d'ailleurs on voit, ils se réconcilient. Je ne parlerai pas de lutte des classes pour les États-Unis, je ne parlerai pas de lutte des classes pour l'Allemagne. Je veux dire, de mon point de vue, c'est une sorte de marxisme ethnologisé, c'est le truc des Français.
– Il y a donc quatre classes sociales pour vous, on les passe en revue rapidement s'il vous plaît, si on veut pouvoir parler du reste. Oui. Tout en haut donc de cette pyramide, il y a donc ce que vous appelez l'aristocratie statofinancière, soit les 1% de la population qui sont les gagnants du système actuel. C'est quoi l'aristocratie statofinancière ?
Alors l'important, c'est le mot stato. Les gens vivent avec l'idée qu'il y a une oligarchie financière qui nous domine. Moi je dis qu'en France, la tradition étatique et les erreurs de privatisation, de libéralisation de l'économie ont abouti à une situation où la caste dominante française est fondamentalement étatique et que les gens qui pensent lutter ou sortir de nos difficultés en luttant contre la finance, la banque, etc., banque est peuplée d'énarques, etc., ils se trompent. C'est-à-dire, ce qu'on a, c'est une caste dirigeante d'origine et d'essence étatique qui ne sait même pas ce qu'est l'économie de marché. J'étais assez bref.
En dessous, la petite bourgeoisie CPIS pour, redites-moi, parce que je n'ai pas, profession intellectuelle.
Cadre et profession intellectuelle supérieure.
19% de population, c'est quoi? C'est vous, c'est nous?
C'est moi, en tout cas.
Donc, c'est-à-dire en quelques mots.
Pour situer les gens, il faudrait que j'ai leur bulletin d'impôt, vous voyez, leur déclaration d'impôt. Mais c'est moi, en tout cas, certainement. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en général, ont fait des études supérieures, qui se pensent ou qui sont présentés comme justement des winners, des privilégiés, qu'on va trouver dans les centres-villes, qui votaient soit, quand ils étaient dans le privé, plutôt pour la droite républicaine, plutôt pour le Parti socialiste, quand c'était la branche enseignante, et puis qui ont convergé dans un vote macroniste. Je veux dire, c'est une sorte de fusion. J'ai un petit diagramme où je montre cette fusion, très jolie, qui m'a pris un temps fou. Et donc, c'est le groupe social décisif. Parce que c'est une masse électorale, un certain type de domination intellectuelle, et de son niveau de conscience dépend l'évolution future.
– Les fameux losers d'en haut, dont vous parliez tout à l'heure. Ensuite, il y a ce que vous nommez la majorité atomisée. Alors ça, c'est carrément la moitié de la population française.
Bah, – c'est les professions intermédiaires, plus les employés qualifiés, plus artisans, petits commerçants, plus ce qui reste de paysannerie. Mais l'axe fondamental, c'est les professions intermédiaires. C'est l'un des groupes dont la croissance a été la plus rapide depuis 1990, et c'est un groupe qui a dépassé en masse le monde ouvrier, en fait. C'est là que se trouve. Mais alors, ça n'est pas simplement une reprise de la vieille théorie des classes moyennes, parce que c'est un groupe qu'on pourrait définir comme moyen, mais dans l'idée des classes moyennes, il y avait l'idée d'amélioration des conditions. Ce qu'on a en France, c'est l'émergence d'une moyennisation par le bas, si on peut dire. C'est-à-dire d'un groupe moyen qui devient dominant au moment où son niveau de vie commence à baisser. Ce qui est normal, puisque sans ouvriers, le niveau de vie baisse.
Les 30% restants,
pour tout le monde.
En bas de la pyramide, c'est donc le prolétariat. Vous parlez, vous, d'une cascade de mépris. Pour vous, tout le monde méprise tout le monde, en fait, dans cette cascade de mépris. En gros, l'aristocratie stato-financière méprise la petite bourgeoisie, qui elle-même méprise le prolétariat. Mais au milieu, il y a cette majorité atomisée qui est invisibilisée.
Invisible, qui n'a pas conscience d'elle-même. Ça se voit dans son vote qui fluctue de façon incroyable.
Vous la comparez, vous dites que, pour les qualifier, vous dites que ce sont des pommes de terre dans un sac de pommes de terre.
Non, ça c'est l'expression de Marx pour la paysannerie.
Et vous la reprenez?
Oui, ça c'est l'un des trucs. Non, il faut lire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça?
C'est-à-dire que c'est un groupe. Alors, ce que disait Marx, c'est que les paysans qui avaient assuré directement l'élection du futur Napoléon III, et fichu en l'air la démocratie en France, il les décrivait comme des pommes de terre dans un sac de pommes de terre, c'est-à-dire une masse atomisée, individualisée. C'est très très intéressant. Avec une erreur, puisque Marx s'imaginait que c'était l'entreprise familiale, alors que le cœur du bassin parisien, qui avait le plus voté pour le Bonaparte en question, en fait c'était plutôt des ouvriers agricoles. La métaphore est belle. En France, c'est pas ça. Je crois que j'ai poussé la métaphore de façon un peu facile en parlant de fruits et légumes variés plutôt que de pommes de terre dans un sac de pommes de terre. Mais c'est un groupe et il n'a pas voté massivement Macron autant que les autres, un petit peu quand même, pas mal, mais c'est surtout qu'il n'a pas conscience d'exister et on le suit dans son vote qui est totalement incohérent, qui va passer de la droite à la gauche, avec une embardée sarkozyste, il y a même une embardée front, si on prend le vote modal, c'est-à-dire le plus fréquent, pas forcément majoritaire. Et donc, c'est un vote qui fluctue. Mais c'est un bloc qui est très intéressant parce qu'il est le plus incertain de lui-même en termes d'alignement politique et de conscience, mais c'est là que les évolutions sociétales, les évolutions de mœurs, sont les plus fortes. C'est le groupe qui est le plus féminisé. Alors, marginalement, c'est le groupe où l'homosexualité est la plus fréquente. C'est la modernité culturelle aussi, une modernité fatiguée.
Thomas, alors vous nous expliquez donc comment le vote Macron a pu se cristalliser sur cette atomisation, etc. Mais j'ai quand même remarqué, à la page 231 de votre livre, un passage qui m'a un peu fait tiquer, parce qu'il y a une autre explication. Vous écrivez, nous avons dit plus haut que la haute bureaucratie ne se limitait pas à l'inspection des finances, qu'elle incluait aussi le monde de la justice. Et de fait, celle-ci a rendu de grands services aux candidats puis au président Macron. Fillon a été éliminé au moment où il fallait l'éliminer. Plus tard, Mélenchon détruit au moment où il fallait le détruire. On n'est pas un peu dans le complotisme?
Ah tiens, ça faisait longtemps.
Non, mais c'est une question que je vous pose.
Non, alors ça, c'est une... Alors non, vous savez, quand un type se meut dans le marxisme, par définition, il n'est plus dans le complotisme, parce qu'il s'intéresse à des forces collectives et pas à des complots. Le marxisme est le bon remède contre le complotisme. De même que l'école des annales française qui s'intéresse aux masses de population et pas aux individus. Mais maintenant, je vais répondre.
Au moment où il fallait.
L'une des idées fondamentales du 18 Brumaire, c'est l'autonomisation de l'État.
Qui est un livre de Marx.
De Marx. Et là, ce que je diagnostique en France, je ne pense pas que j'y serais arrivé sans le coup de pouce d'intuition de Marx. C'est-à-dire que les types qui sont à la tête de l'État sont des énarques qui se pensent libéraux, qui privatisent à tour de bras, ils fabriquent l'euro, qui est une monnaie intensément étatique dans son concept, ils détruisent la société civile tout en voulant l'encourager, et dans le champ de ruines qu'est la société française, l'industrie française, etc., la force de l'État augmente sans arrêt. Et ce qu'on vit actuellement n'est pas du tout un triomphe du néolibéralisme, mais une entrée en liberté de l'État, et dans ce cas-là, et j'en viens maintenant directement à cette question, il faut étudier l'État concrètement. C'est-à-dire que l'État concrètement, c'est un appareil, c'est le monopole de la violence légitime, il y a un appareil, il y a la justice qui fait partie de cet appareil, et il y a la police, et dont on parle de plus en plus, et qui devient pour moi de plus en plus le sujet de préoccupation sociologique. Une chose que j'aimerais dire...
– Il faut absolument qu'on avance, mais allez-y. –
Oui, mais justement parce que j'ai vraiment peur d'oublier. Oui, mais c'est dur, la télévision, pour les...
– Allez-y, allez-y.
– Je fais ce que je peux. Hein.
– Allez-y.
Voilà. – Et donc, moi, l'une des choses qui m'a frappé, encore un sondage génial fait par Fourquet, vous voyez comme on n'est pas d'accord, il a fait des sondages d'opinion sur le vote des gendarmes. On peut considérer comme une sorte d'axe central, puisque ce sont un morceau de l'armée qui exerce des fonctions de police, et il n'y a pas de raison de penser que les policiers sont très différents. Et ils votent à 50% pour le Front National. Donc la situation actuelle en France, c'est qu'on a un gouvernement, un État dirigé par des énarques, servi par une justice, très répressive et qui est et dont les comportements est soutenu en termes de force physique par une police, je dirais, qui est dominée idéologiquement par le Front National. C'est-à-dire que on peut dire deux choses de ça. C'est que
et après on arrête.
Oui, la collaboration entre le Front National et Le Pen, Marine Le Pen, est une hypothèse pour le futur tout à fait valable.
Non, entre, vous voulez dire entre le macronisme et le lepenisme.
Le macronisme et le lepenisme est quelque chose de tout à fait valable et que actuellement l'inquiétude qu'on sent un peu partout avec le comportement de la police qui fiche des lycéens en garde à vue pour un feu de poubelle, je ne parle même pas des ébordés, etc., c'est que la police est pénétrée par l'idéologie du Front National et on peut même se demander si le Front National ne partage pas déjà le pouvoir avec le macronisme actuellement.
C'est une thèse qui fait hurler.
Ça, c'est un super-léninisme.
Et évidemment, Emmanuel Todd.
Mais ça n'est pas du complotisme.
On avance.
C'est fondé sur des sondages.
Emmanuel Todd, on avance et on va parler des municipales. On vote dans 6 semaines, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains. Campagne marquée, Camille, par la grande ambition des écologistes qui espèrent transformer l'essai après les européennes et l'emporter dans plusieurs grandes villes de France.
Oui, et en mars prochain, ils pourraient remporter une dizaine de villes. Dans des villes détenues par la gauche, comme Rouen, un fief socialiste dont la catastrophe écologiste de Lubrizol pourrait bien avoir des conséquences sur le scrutin. Les Verts sont en bonne position. Et puis aussi dans des villes comme à Bordeaux, fief historique d'Alain Juppé, où le candidat écologique est aujourd'hui donné à quasi-égalité avec le maire sortant de droite, un fidèle juppéiste, chacun donnait autour de 30% dans les sondages.
Reportage en coulisses signé Johan Sadé avec Johan Malka, Jonathan Hemen et Mehdi Rondeleux. Et pour commencer, direction Bordeaux donc, où le vert est la couleur de la campagne. Et le futur maire, c'est peut-être lui, Pierre Urmic, candidat Europe Écologie Les Verts, un avocat de 64 ans, en opération tractage cette semaine sur les marchés de sa ville.
Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous donner le programme des écologistes? Ça vous intéresse pas? Bon, mais c'est moi qui suis le candidat écologiste.
Okay. Et puis ce qu'on fera pour les déchets aussi, c'est la redevance incitative que les gens paient en fonction de ce qu'ils jettent. Tu sais, moi je me suis mis au compostage chez moi, je peux vous dire depuis, je sors ma poubelle tous les 15 jours.
Concernant le vélo,
ah, oui.
C'est vrai que pendant longtemps je travaillais à Bègle, donc je prenais mon vélo sur les boulevards.
Ouais. Et c'était c'est mortifère. Ouais. Nous on veut de vrais pistes cyclables, pas des petits bouts de voies au milieu de la circulation.
En tous les cas, on espère que ce sera vous.
Bon, mais c'est bien.
De Bordeaux,
c'est merci de nous encourager, en tout cas. C'est gentil. Allez, okay. Passez une bonne journée.
Au revoir.
Elle existe, cette aire de compostage, depuis 2011. Jardinage, compostage, parce qu'en même temps, on peut parler aussi de l'alimentation. Tout est lié au compostage. Voilà. Ça donne vraiment une...
D'accord.
Vraiment une pâte, hein, presque.
Et là, vous l'utilisez essentiellement pour les jardins partagés?
Non, tout le monde peut venir.
Là, on vient de parler d'environnement.
Oui.
C'est l'un des gros thèmes de la campagne. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens vont quand même aller vers celui qui est à l'origine le plus écologiste, c'est-à-dire M. Urmic?
Bah, moi j'ai 41 ans, je vais vous dire, je crois que la transition écologique, c'est pas un parti. Je revendique aussi d'être extrêmement ambitieux sur le plan de la transition écologique, parce que c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité que l'on a devant nos enfants, et c'est mon engagement.
Alors Camille, on fait une première pause. Ce candidat La République En Marche bordelais, il illustre ce qu'on appelle le greenwashing, le verdissement de cette campagne. Et si tout le monde se met au vert en ce moment, Camille, c'est que les écolos, on le vend en poupe et pas uniquement à Bordeaux.
Oui, c'est l'heure de la revanche des écolos. On pourrait dire aujourd'hui, ils gèrent seulement 3 villes de plus de 20 000 habitants. Bègle, longtemps dirigé par le populaire Noël Mamère, Grenoble et Arcueil en banlieue parisienne. Demain, ils pourraient en gérer une dizaine de plus, des grandes villes comme Bordeaux, donc, mais aussi Lyon, Besançon ou Strasbourg, dans la région parisienne, il y a aussi Ivry-sur-Seine ou Colombes. Alors tout ça, ça reste très théorique. Hein. Ces calculs, ils sont faits en fonction des résultats obtenus par les Verts aux européennes, 13,5%. Des scores qui ont même flirté dans plusieurs de ces villes avec les 20%. Mais il y a tout de même encore un mois et demi de campagne à mener.
On retourne dans le reportage et on va retourner à Bordeaux, ville détenue par la droite depuis 73 ans. 73 ans, le maire sortant, Les Républicains, successeur d'Alain Juppé, c'est cet homme que vous allez voir, il s'appelle Nicolas Florian. C'est donc lui que doivent battre les Verts pour l'emporter. Réunion au QG du candidat écolo, où son équipe analyse le clip de campagne, justement, du candidat de la droite.
J'ai tissé des liens de confiance. Lorsque je me promène sur les quais dans les rues de Bordeaux, je suis traversé par une émotion profonde. Tout simplement parce que j'aime passionnément Bordeaux.
Comme vous, je ressens la joie d'être bordelais, mais aussi les difficultés du quotidien.
Pour que Bordeaux réussisse, j'ai besoin de vous. Faisons-vous confiance.
si on doit réfléchir ensemble, c'est un bon point de départ pour savoir qu'il faut faire exactement l'inverse.
On a trouvé qu'il était très isolé, très seul,
oui,
et c'était très auto-centré. Et du coup, ce qu'on avait envie, c'était plus de montrer sur le terrain ce qui se passe, les initiatives qui bougent.
Une ville vivante, pas une ville musée.
Vivante, voilà.
Une ville qui vibre, quoi.
Et que tu sois au contact des gens aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc il faudrait que le clip puisse sortir... Il faudrait qu'on puisse le sortir, on va dire, autour du 15-20 février.
Oui.
Mais on vote le 15 mars.
Ouais. Si on peut le sortir avant le 15 mars, j'aime autant. Hein,
Et Pierre.
Ça va?
Bonjour Nicolas. Ça va Nicolas?
Bonjour. Nicolas Florian, le maire sortant qui vient d'arriver.
Bonjour.
Monsieur le maire, bonjour. Pierre Lhermic. Candidat d'Europe Écologie Les Verts. Un troisième invité pour ce débat, il est là également. Il s'appelle Thomas Cazenave. Alors bon, c'est le moment un peu tranquille. Hein. Là, c'est le moment du maquillage, tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc là aussi Thomas Cazenave qui a fait, vous le savez, comme c'est le cas d'ailleurs de nombreux candidats de l'écologie, un des thèmes forts, bien évidemment, pour ces campagnes des municipales.
On va parler, vous le savez, ce soir, d'écologie. C'est un thème clé.
C'est un sujet qui est en tête de gondole de cette campagne. En 2014, il était quasi inexistant. Certains sont convertis de fraîche date, enfin depuis peu, et puis d'autres sont engagés depuis quelques années sur cette voie-là.
Il faut partir d'un diagnostic précis. Le diagnostic précis, c'est que Bordeaux est en manque d'espace vert par rapport à des villes comparables.
Je partage le constat que nous sommes très en retard. Et je pense qu'on a besoin effectivement d'un nouveau projet urbain.
Oui, non, mais j'entends bien qu'il faut tout faire, il faut tout changer. La réalité, c'est qu'on a déjà engagé un certain nombre d'innovations, de projets, et qu'il faut s'inscrire dans la durée.
À vous écouter, M. Florian, j'ai l'impression qu'il faut y aller tranquillement. On a le temps. Pourquoi brusquer les choses, etc. Je ne suis pas persuadé que mes deux contradicteurs aient pris conscience du fait qu'on est en état d'urgence climatique.
Alors Camille, deuxième pause, ils sont très confiants, hein, les écolos pour ces municipales, mais leur objectif, il est beaucoup plus grand, c'est la présidentielle en 2022.
Oui, Yannick Jadot, il a été très clair dans une interview donnée au Figaro cette semaine, je le cite, « Le chantier, c'est celui de l'alternance pour 2022. Cette ambition, elle met la pression sur La République En Marche et sur les socialistes. Tout d'abord, pour la majorité présidentielle, c'est un problème, cette poussée verte, car les Verts ont la capacité d'attirer à eux des électeurs déçus par Emmanuel Macron. Cette progression des écolos, elle pose aussi problème donc à la gauche, particulièrement aux socialistes. C'est la suite des élections européennes. On l'a dit, les Verts, ils ont fait 13,5%, mais ça veut dire plus que le score du Parti Socialiste et de la France Insoumise cumulé. Donc forcément, ça donne des ailes aux Verts qui veulent maintenant incarner la troisième force politique du pays face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les Verts qui veulent donc désormais remporter des villes détenues par leurs alliés de gauche.
Et bien, illustration de cette stratégie en Normandie, à Rouen, terre profondément socialiste, ville industrielle marquée par le scandale récemment de l'usine Lubrizol. Alors là aussi, les écolos croient en leur chance avec un candidat au nom très socialiste, il s'appelle Jean-Michel Bérégovoy, c'est le neveu de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, mais il est Europe Écologie Les Verts, et il recevait Jean-Michel Bérégovoy cette semaine la visite du jeune patron du parti, Julien Bayou.
Ils sont où alors? On n'a pas la plus grande gare de France quand même. Salut, ça va?
Ouais, toi?
Bah écoute, plutôt pas mal, ouais. Toi aussi? Il y a un basculement, on le sent. Vraiment.
Ouais. Les gens ne parlent pas pareil et tout.
Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, ils s'arrêtent, ils disent bonjour, et bon courage, on va voter pour vous. C'est tout ça, tu vois. On a fait une réunion publique samedi dernier à 19h. Ça me prenait un peu la tête, je pense qu'il faut un peu se reposer à des moments. Et la salle était pleine à craquer.
Ah bah faut que tu tiennes. Hein.
La salle était pleine à craquer.
Tour, hein.
Oui, c'est bien.
C'est vrai qu'on a des raisons d'être confiants. Moi j'appelle à la lucidité, vraiment, à l'humilité. On est déterminé, c'est sûr, mais tout va se jouer dans les 7 semaines qui viennent. Jusqu'au jour J, jusqu'au bulletin dans l'urne, on reste mobilisé.
Lubrizol a renforcé l'idée que les écologistes étaient peut-être la solution. C'est un événement, c'est une catastrophe qui a marqué, qui marquera pour longtemps l'esprit de celles et ceux qui l'ont vécu.
Bonjour madame, c'est pour les élections municipales à Rouen.
C'est Jean-Michel Bérégovoy. Vous voyez,
d'accord.
Moi, je suis la première femme écolo sur la liste. Est-ce que vous savez que les cantines scolaires, avec des repas avec 80% de produits locaux. Vous savez que c'est les écologistes qui ont mis en place sur Rouen.
J'ai rendez-vous au Pôle emploi.
Ok. Donc, et vous voyez, Pôle emploi, les écologistes, dans leur programme, c'est 2000 emplois créés rien que pour la rénovation thermique des bâtiments. Voilà. Bonne journée, monsieur. On n'est plus dans le cliché de l'écologie, c'est réservé pour les riches, en fait. L'écologie, c'est l'écologie populaire. Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir.
Et J-42, donc avant le premier tour de ces municipales, nous allons continuer à décrypter les enjeux dans ces politiques dans les 6 semaines qui viennent. Notre invité ce soir, l'historien et démographe Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, vous parliez de ce que vous appelez le macro-lepénisme, juste avant ce reportage en coulisses. Il est très dur avec Emmanuel Macron, Emmanuel Todd, dans ce livre. Camille, il y a même un mot qui a retenu votre attention, c'est le mot fascistoïde.
Oui, vous qualifiez carrément Emmanuel Macron de fascistoïde. Pour vous, il est une menace avérée pour la République. Alors, ceux qui, comme vous, considèrent qu'il est un président autoritaire, Emmanuel Macron vous a répondu.
Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais aller en dictature, une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez.
Alors, Emmanuel Todd, lorsque vous dites que la France n'est plus une démocratie représentative, est-ce que vous êtes dans la provocation? Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas cette expression. Est-ce que vous êtes à minima dans la fantaisie d'expression?
Pas du tout. Je suis dans une analyse politologique sérieuse que tout le monde devrait faire. Une démocratie, actuellement, les gens se comportent comme si la démocratie, c'était s'exprimer. On parle librement, ce qu'on est en train de faire. On vote librement. Ce qu'on va pouvoir faire, et puis ça s'arrête là parce que la France n'a plus de pouvoir économique par elle-même. C'est-à-dire que le président de la République française, qui est une sorte de monarque à l'échelle de ce qui existe comme chef de l'exécutif dans le monde occidental.
C'est un monarque qu'on peut, non, il ne peut battre pas. Dans les urnes tous les 5 ans.
On peut le battre dans les urnes, on peut le remplacer, mais comme il est encastré dans l'euro et dans les règlements commerciaux européens, il ne pourra pas mener de politique économique. Il pourra prendre des mesures, je dirais, sadiques contre le niveau de vie, les retraites de la population. Il pourra tout d'un coup, inévitablement, commencer à nous parler d'immigration parce qu'il ne peut rien faire. Mais en fait, il est tout à fait impuissant. Et on ne peut pas appeler ça démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est on a le droit d'expression, on a le droit de voter et on a la capacité d'agir. Et à partir du moment où on élit des gens qui ne peuvent pas agir, la vie politique devient une... Attendez, je termine. Et on a, c'est ce que je décris, la grande comédie. Donc on a des élections, et alors chaque fois, il faut trouver un thème intéressant. Donc le thème intéressant de Sarkozy, c'était l'immigration. Le thème intéressant de Hollande, c'était même pas tellement l'affluence, c'est d'être plus normal que Sarkozy. Le thème de Macron, c'est « je suis jeune ». Et ce que vous venez d'évoquer pour la prochaine présidentielle, c'est... On pourrait avoir un thème, c'est « je suis vert ». Mais ça n'aura aucun effet.
Quand Emmanuel Macron vous dit « allez essayer la démocratie si ce n'est pas une démocratie, essayez la dictature si ce n'est pas une démocratie ».
D'abord, je n'ai jamais employé le mot « dictature ». Je viens de vous donner ma définition du fait que, la France n'est plus une démocratie représentative. On pourrait dire, c'est-à-dire qu'on m'attribue, de toute façon, je ne sais pas d'où.
Non.
Je suis très flatté s'il parle de moi déjà comme d'un opposant majeur.
Camille l'a dit, de vous et d'autres.
Je n'ai pas employé le mot dictature et j'ai donné une définition stricte. C'est-à-dire qu'on a des libertés, mais la liberté qu'on n'a pas en France, c'est d'agir en tant que collectivité. Et les Anglais viennent de reconquérir ça avec le Brexit. Et c'est dans ce sens qu'ils sont une vraie démocratie représentative. Nous, on est une parodie de quelque chose, on est un élément d'un système qui, de plus en plus, en fait, je dirais, si vous voulez, j'accorderais à l'Allemagne le statut de démocratie représentative.
Eh ben,
parce que
incroyable.
Comme c'est les patrons en Europe, eux peuvent décider pour tout le monde.
Champagne en Allemagne ce soir, après ces propos d'Emmanuel Todd. Alors, on parlait de l'Empire américain tout à l'heure, en début d'émission. On va maintenant vous emmener dans un autre empire, une autre grande puissance mondiale, la Chine. Ouais. C'est l'une des actualités à la une cette semaine, la propagation du nouveau coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette semaine une urgence de portée internationale. Plus de 14 000 cas confirmé ce soir, 304 décès, et en France, un sixième cas recensé. En Chine, le virus commence à créer un début de psychose, et ici en France, on assiste à une résurgence du racisme anti-chinois et plus largement anti-asiatique. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord décryptage de ces 30 jours de crise sanitaire qui révèlent aussi les failles et les faiblesses de la deuxième puissance mondiale. C'est signé Beryl Chomeil et Nicolas Dumont.
Le lundi 30 décembre, en regardant mes mails, je trouve sur la liste Promed un avis comme quoi, dans la ville de Wuhan, depuis la mi-décembre, une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonie, dite atypique, peut-être virale. Là, ce qui était particulier, évidemment, c'est que le potentiel virus incriminé n'était pas connu. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il s'agit d'un épisode isolé ? Ou, et c'est évidemment la question qui nous taraudait, est-ce qu'il y avait déjà un début de transmission interhumaine ? Parce que là, le risque épidémique est réel.
Le 30 décembre, seuls quelques scientifiques dans le monde sont au courant. La Chine informe discrètement l'OMS d'un début d'épidémie.
Les autorités chinoises préviennent l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'une épidémie qui a commencé, en tout cas de cas, qui sont apparus dès le début du mois de décembre. Le premier cas remonté au 1er décembre.
L'épidémie est partie de Wuhan, au centre de la Chine, de ce marché aux fruits de mer.
Wuhan, c'est une ville qui est très importante industriellement. On la compare souvent à Détroit parce qu'en fait, le secteur automobile est développé.
C'est là que le groupe PSA, Peugeot et Citroën, a choisi d'implanter ses usines. Wuhan est situé vraiment à un lieu de passage colossal en Chine.
Officiellement, le marché, en fait, c'est un marché de fruits de mer. Après, vous avez des ventes illégales d'animaux sauvages.
Et donc, ça permet ces sauts de virus et ces mutations de virus auxquelles on assiste.
12 jours après la première alerte, la télé d'État chinoise annonce la fermeture du marché pour des questions d'hygiène, mais personne ne parle alors de coronavirus.
Je suis un peu inquiète. Il y a des gens du marché aux fruits de mer qui ont attrapé une pneumonie contagieuse. De toute façon, ce marché sentait vraiment mauvais. Il était vraiment sale.
16 jours après la première alerte, la télé d'État évoque pour la première fois le coronavirus et annonce un premier mort.
Voici les dernières informations de la Commission nationale de la santé. 41 personnes sont atteintes d'une pneumonie, 7 ont été hospitalisées dans un état grave et une est décédée.
21 jours après l'alerte discrète à l'OMS, les autorités chinoises reconnaissent officiellement l'existence d'une épidémie.
À partir du 20, les événements se précipitent.
Le nouveau coronavirus commence à se propager. Nous devons trouver un moyen d'enrayer l'épidémie, car le virus se transmet d'homme à homme. L'épidémie est à prendre au sérieux.
Chong Nanshan, donc, est le héros, celui, l'épidémiologiste qui avait révélé l'importance et la gravité de l'épidémie du SRAS en 2003. Il se rend à Wuhan. Et le 19, il indique que ce nouveau coronavirus peut se transmettre de homme à homme, en fait.
Maintenant, nous devons passer en mode alerte maximale.
23 jours après la première alerte, l'OMS se veut rassurante.
Ce que la Chine est en train de faire, c'est de prendre des mesures très très fortes avec une implication totale.
Dès le début, on a eu le directeur général actuel de l'OMS qui a vanté les louanges de Xi Jinping et des autorités chinoises dans leur gestion de la crise. On a eu le sentiment à un moment que l'OMS en faisait trop.
Des actions ont été prises immédiatement, notamment sur les marchés, le marché de Wuhan, le marché aux fruits de mer, et d'autres mesures ont suivi. C'est admirable.
Il y a une gestion très politique de la situation internationale. La Chine a beaucoup d'influence à l'OMS. Il y a eu une directrice générale chinoise à l'OMS. La Chine continue à avoir des réseaux à l'intérieur de l'organisation. Et à l'arrivée, la première réunion qui a eu lieu à l'OMS pour décider du statut de cette épidémie a été, là encore, l'objet d'une tractation et d'un travail de lobby de la part de la Chine extrêmement important, qui a fait que l'alerte mondiale n'a pas été déclenchée à ce moment-là par l'OMS.
L'annonce officielle a été faite dans la nuit, à 2h du matin. Et elle dit qu'à partir de 10h, il ne sera plus possible de sortir. Donc les gares vont être fermées, les aéroports, etc., etc. Mais ce qui veut dire que dans la nuit, des gens ont essayé de partir, en fait. Donc se sont précipités à la gare pour prendre le dernier train. Il y a 1 million de personnes, à peu près, qui ont réussi à sortir. Donc ça veut dire 1 million de personnes qui, éventuellement, s'ils étaient contaminés, ont peut-être propagé le virus ailleurs.
Wuhan et ses 11 millions d'habitants sont confinés chez eux. Scène surréaliste à la nuit tombée.
Les gens ouvrent leurs fenêtres et crient « Wuhan Tiaryo, allez Wuhan », qui est un peu le cri de ralliement à la fois de la population et de la nation entière sur un mouvement de soutien à Wuhan, en fait.
Wuhan, ses rues désertes et ses hôpitaux pris d'assaut.
J'ai de la fièvre et je tousse. J'ai vraiment peur d'être infecté.
Les hôpitaux ont été débordés par un afflux de gens qui parfois n'avaient pas la maladie mais avaient de la fièvre pour d'autres raisons, se retrouvaient à l'hôpital en compagnie de gens contaminés. Et donc l'hôpital était devenu un lieu de crise, d'où la construction de 2 hôpitaux en toute urgence à Wuhan.
26 jours après la première alerte, l'État chinois met en scène ses chantiers gigantesques, histoire de rassurer sa population et d'envoyer un message à la communauté internationale.
Cet hôpital a besoin de nous. Et dans ce combat pour vaincre le virus, nous donnerons tout et nous allons y arriver, c'est sûr.
Ça permet aussi à la propagande chinoise de faire oublier tous les ratés. C'est Xi Jinping en personne qui l'a dit, on a un ennemi à vaincre, c'est le virus. C'est même un démon, a-t-il dit, lors d'une rencontre avec le directeur de l'OMS. Et puis, dans cette narration de la propagande, vous avez des héros. Donc les héros, c'est qui ? C'est le personnel médical, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est aussi les ouvriers. Et puis vous avez éventuellement les traîtres, des fonctionnaires locaux qu'on va présenter comme étant les coupables du retard de l'information ou d'avoir couvert l'information.
À Wuhan, un homme refuse d'être sur le banc des accusés.
Je reconnais que nous n'avons pas révélé les informations en temps voulu. Nous ne pouvons pas transmettre nos informations sans l'approbation du gouvernement.
Ce à quoi il fait référence, c'est la loi sur les secrets d'État. Les épidémies en Chine sont considérées comme un secret d'État. Et le maire n'avait pas autorité pour donner les informations. Il lui fallait un feu vert d'un échelon supérieur, vraisemblablement les plus hauts niveaux de l'État à Pékin.
Si le grand public pense que nous nous sommes trompés, nous démissionnerons.
En gros, on a un bouc émissaire, un coupable idéal, qui est ce maire qui a reconnu sa responsabilité. Mais ce qui n'est pas toléré, ce qui est une ligne rouge qu'on ne laissera jamais se développer, c'est la mise en cause du pouvoir central. C'est la mise en cause de Xi Jinping, le numéro un chinois.
À Genève, l'OMS change alors radicalement de discours.
Risque au niveau mondial, élevé. Risque au niveau régional, élevé. Et pour la Chine, très élevé. Le virus ne se propage pas beaucoup en dehors de la Chine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer.
Le temps que l'alerte soit donnée et que la ville soit bouclée, il y a eu 5 millions d'habitants de Wuhan qui se sont éparpillés dans la nature, qui ont quitté la ville. Ces 5 millions de personnes qui sont parties sont devenues les porteurs de virus qui se sont répandus à travers tout le pays. Toutes les provinces chinoises sont aujourd'hui contaminées, vraisemblablement à partir de ces habitants de Wuhan qui se sont dispersés dans la nature.
La crise chinoise est désormais une crise mondiale.
Bonsoir Chun Yanli.
Bonsoir.
Vous êtes chinoise installée en France depuis 2003, oui. Fondatrice d'une société de conseil basée entre la France et la Chine, et vous revenez tout juste de Chine. Vous êtes revenue jeudi en France à Paris. Vous étiez dans la région de Shanghai et vous avez réussi à prendre l'un des derniers vols pour revenir ici, puisque vous êtes revenue avant l'annonce de la suspension des vols par Air France et par d'autres compagnies aériennes. Vous allez nous dire ce que vous avez ressenti sur place et comment la population réagit à cette crise sanitaire. À côté de vous, Lin Landau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour la chaîne France Info et vous menez avec d'autres la campagne « Je ne suis pas un virus » qui est un hashtag né sur les réseaux sociaux pour dénoncer la vague de racisme anti-asiatique provoquée par l'arrivée ou renforcée par l'arrivée du coronavirus en France. Et je précise que ça fait longtemps que vous luttez contre la stigmatisation et le racisme anti-asiatique ici en France. Chun Lanli, vous revenez donc de Chine. On parle de psychose en Chine. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous aussi, sur place? Comment ça se passe?
Je n'ai pas vraiment ressenti de psychose, en fait, en Chine. Tout d'abord, il est vrai qu'il y a beaucoup de stress et d'inquiétude en Chine. Aujourd'hui, dans les lieux publics, tout le monde porte un masque à l'aéroport. Mais déjà, il y a beaucoup de rues qui sont vides. Et puis, on minimise, en fait, les sorties. Et il y a beaucoup de communication aussi dans les médias ou sur les réseaux sociaux pour partager des informations. Même à l'aéroport international de Shanghai, il y a eu la radio qui répétait sans cesse les précautions à prendre.
Des messages de précaution.
Oui, se laver régulièrement les mains si on a de la fièvre, etc. Mais en même temps, je sens aussi que les gens sont quand même globalement confiants pour vaincre cette épidémie en Chine.
Les gens sont confiants. Est-ce qu'ils se sentent stigmatisés par le reste du monde?
C'est une question très intéressante parce qu'en fait, d'une part, il y a eu beaucoup de messages de soutien et il y a eu aussi beaucoup de dons envers les habitants ou les hôpitaux de Wuhan. Il y a eu des vidéos très touchantes, il y a une qui a été montrée tout à l'heure. D'autre part, il y a eu certaines personnes qui ont eu des réactions irrationnelles. Donc c'est quand une personne qui se trouve en fait, devant lui, c'est quand cette personne a voyagé récemment à Wuhan ou à Hubei, ou quand elle vient de cette province, certaines personnes ont peur. Il y a même eu certains hôtels qui ont refusé de les héberger. Mais après, il y a eu beaucoup de discussions et de critiques aussi sur les réseaux sociaux chinois. Il y a eu des hôtels qui ont été choisis pour les accueillir. Ouais.
Vous êtes revenu jeudi en France, parce qu'on parle de la Chine et de psychose en Chine, ça existe aussi en France. Est-ce que vous, depuis que vous êtes revenu, vous sentez de la méfiance envers vous?
Pour l'instant, parce que c'est un peu court en fait, je n'ai pas osé, entre guillemets, porter un masque en public, même si moi je pense que je suis en bonne santé en fait. Ma ville est loin de Wuhan et j'ai d'ailleurs acheté un outil à la pharmacie pour me mesurer la température au moins deux fois par jour. Voilà, et donc, je ne porte pas de masque, donc je n'ai pas vu vraiment de réaction irrationnelle. Par contre, j'ai entendu plusieurs anecdotes de mes amis chinois vivant en France, et j'ai lu aussi plusieurs articles.
Quel genre d'anecdotes
Par exemple, j'ai un ami chinois qui a dit, dans la rue, il y a eu un ou deux Français qui l'ont vu, qui ont dit à haute voix, attention, il y a un Chinois ici, ou quand une autre personne est entrée dans les transports en commun, et tout de suite, elle a vu qu'on a eu une réaction, on a essayé de cacher le visage avec l'écharpe, etc. Puis après, il y a eu une femme asiatique qui a été insultée dans les transports en commun parce qu'elle portait un masque. Et là, je voudrais aussi souligner la différence, en fait, dans l'habitude de porter un masque. Parce qu'en Chine ou en Asie, même une personne en bonne santé peut porter un masque. C'est pour se protéger aux autres, se protéger contre le froid, la pollution, la poussière, etc. Et c'est aussi un moyen de protéger les autres. Voilà.
On va en reparler dans un instant des remarques avec vous, Lin Landau. Juste un mot des autorités chinoises, Myriam. Le président chinois multiplie les gestes de communication pour essayer de rassurer à la fois sa population et le reste du monde.
Mais quoi de mieux pour rassurer la population qu'un grand show télévisé à l'occasion du Nouvel An chinois? Alors que les festivités ont été annulées pour éviter de propager le virus, la télévision chinoise a diffusé des images de fête avec un message combatif et autoritaire.
ministre.
On en profite un peu, hein, évidemment, de ce show chinois.
Spectaculaire.
Normalement, il y avait un message derrière qu'on devait entendre. Est-ce qu'on va l'entendre?
Voilà, le message d'une animatrice de cette soirée, le message est clair. La bataille, nous allons la gagner. Alors, pour gagner cette bataille gagnée d'avance, donc, la meilleure personne, la personne la plus indiquée, c'est Jackie Chan, l'acteur cascadeur. Lui aussi a contribué à faire passer le message et il l'a fait en chantant.
Il chante
très bien. Alors dans son message, il semble dire qu'il n'y a pas de virus. Il remet en cause l'existence de virus. Il risque de changer d'avis puisque son dernier film, Vodka Vanguard, subit de plein fouet les conséquences de l'épidémie puisqu'il a été sa sortie a été suspendue dans de nombreux pays, y compris en France.
Alors l'une des conséquences de ce coronavirus ici en France, on en parlait tout à l'heure, c'est la résurgence d'un certain racisme anti-chinois ou anti-asiatique plus largement. Lynn Landau, vous vous battez depuis longtemps contre cette stigmatisation et vous avez lancé avec d'autres le hashtag « Je ne suis pas un virus ». Tout a commencé, alors je ne sais pas si ça a commencé, mais en tout cas dans les médias, par une du journal local Le Courrier Picard. Vous l'avez sûrement vu, en une « Coronavirus chinois alerte jaune ». Qu'est-ce que vous avez ressenti vous en découvrant cette une par exemple, Lynn Landau?
Ben, c'est une qui m'a énormément choquée, d'autant plus que je suis journaliste. Hein, donc j'imagine que derrière cette une, il y a toute une rédaction qui a pris cette décision sans se dire que ça pouvait choquer certaines personnes. Et ce que je critique ici, c'est qu'il y a l'emploi du terme jaune dans ouais. Alerte jaune. Jaune, c'est quand même un adjectif qui est plutôt négatif, utilisé pour désigner des personnes asiatiques. Et là, dans les excuses du Courrier Picard, ils disent « Bon, ben, nous, on a voulu faire un parallèle entre... » entre l'alerte jaune et l'alerte météorologique.
Ouais.
Mais à quel moment est-ce qu'on peut faire un parallèle pareil ? C'est pas possible.
Comment il se traduit le racisme anti-asiatique que vous vivez au quotidien ou que vous dénoncez ? J'imagine que beaucoup de gens vous en parlent, vous rapportent des témoignages. Comment ça se traduit ?
Je tiens à préciser que le hashtag « Je ne suis pas un virus », je ne l'ai pas lancé, c'est une personne anonyme qui a souhaité rester anonyme, qui l'a lancé, qui avait peur d'être harcelée. Mais moi, je constate sur les réseaux sociaux qu'il y a une énorme libération de la parole raciste, non seulement donc sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Par exemple, moi, je n'ai pas été victime personnellement, mais ma meilleure amie, jeudi, elle rentrait chez elle et on lui a crié « Sale chinoise, tu as le virus ». Alors qu'elle est d'origine vietnamienne,
ouais.
comme moi. Donc ce qui se passe là, c'est qu'il y a plusieurs amalgames qui vont se conjuguer. Il y a des personnes qui ne vont pas faire la différence entre les Chinois qui reviennent de Chine et les Chinois ou des personnes aux faciès asiatiques qui habitent en France. Et ils vont tout de suite faire l'association entre Chinois et coronavirus. Et ça, c'est de l'ignorance. C'est pas forcément, ça se traduit par des remarques racistes. Et cette peur, je pense qu'elle est irrationnelle, mais cette peur, elle est normale. Tout le monde peut avoir peur. Mais le problème, c'est quand cette peur, elle est transformée en agressivité.
On le voit, il y a eu plusieurs témoignages aussi dans des cours de collège ou de lycée avec des élèves d'origine chinoise ou asiatique qui ont été pris à partie par d'autres élèves. Est-ce que vous avez le sentiment que le racisme anti-asiatique est un racisme entre guillemets acceptable? Qu'en gros, on se dit, bah, les Chinois ou les Asiatiques, on a le droit. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, je pense que c'est plutôt vrai. Je me mets dans la peau de la personne qui insulte et je me dis bah tiens, moi je peux l'insulter l'asiatique parce que voilà, on fait des blagues, c'est anodin, il va rien dire. Et ça, je pense que c'est en train de changer parce que avant on prenait les asiatiques pour des personnes silencieuses et discrètes qui n'élevaient pas la voix et c'est en train de changer avec de nouvelles générations de Français, voilà, comme moi qui sont nés en France mais qui ont un faciès asiatique et qui pensent que c'est inacceptable de nous renvoyer à nos origines alors que nous, on se sent Français, par exemple.
Il y a une grande différence entre la génération de vos parents et la vôtre, ça vous le sentez ?
Oui, effectivement, je pense que mes parents et les générations d'avant, leur objectif c'était de s'intégrer. Donc ils n'avaient pas vocation à protester contre le racisme, enfin ils pouvaient le subir mais ils ne disaient rien. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est vraiment ces jeunes qui prennent la parole et qui disent que c'est pas possible, que l'on nous renvoie à nos origines alors qu'on est Français comme tout le monde.
Et c'est renforcé effectivement par cette épidémie du coronavirus, mm-hmm. ce racisme et cette discrimination dont vous parlez. Il faut qu'on rende l'antenne absolument. Merci beaucoup en tout cas d'être venues toutes les deux ce soir, Chunyani et Lynn Landau. Merci à vous, Emmanuel Todd, de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle le titre de votre essai, votre livre « Les luttes de classe en France au XXIe siècle » est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous.
Merci à vous.
Et à bientôt. Mariam, on se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous dans un instant, C'est Politique, la suite avec le comédien Thierry Lhermitte dans la peau du chasseur de nazis Simon Wiesenthal et avec nous aussi l'historienne spécialiste de l'histoire juive et de la Shoah Annette Wiewórka. Avec eux, on va questionner le pardon et on parlera transmission de la mémoire aux jeunes générations. A tout de suite, toujours en direct sur France 3.